Réplique dans les traces de Pierre Pachet avec Yaël Pachet et Colombe Schneck. Pierre Pachet était un invité régulier de Réplique. Chaque fois ou presque que j'avais l'idée d'une émission littéraire, son nom s'imposait à moi, car sa subtilité, son acuité, la sûreté de son goût et l'ampleur de sa culture n'avaient pas d'équivalent dans le monde intellectuel. Il a donc commenté à ce micro Coetzee, Pasternak, Mandelstam, Adolf Roudnitsky, Isaac Babel, le colonel Chabert de Balzac, ou encore, dans une mémorable conversation avec Claude Habib, Niki, l'extraordinaire roman de Tibor Derry. Pierre Pachet est mort, il y a 3 ans, le 21 juin 2016. Et je m'en veux maintenant de ne pas l'avoir invité pour parler de ses livres les plus importants, comme Conversation à Jassy, Autobiographie de mon père, Devant ma mère ou Sans amour. Il est trop tard, mais l'occasion m'est fournie de réparer partiellement cette négligence et d'évoquer la figure de Pachet par 2 livres. Celui de sa fille, Yaël Pachet, Le peuple de mon père, et celui que sa nièce, Colombe Schneck, a consacré à son propre père, mais où l'oncle est très présent, Les guerres de mon père. Je commencerai par votre titre, Yaël Pachet. C'est quoi, c'est qui, le peuple de mon père ?
C'est un titre terrible. J'ai eu du mal à trouver ce titre parce que j'ai tout fait pour éviter un titre à la Pagnole. C'est-à-dire, je ne voulais pas le château de ma mère, je ne sais quoi de mon père. Mais ce que je peux en dire brièvement, c'est que le peuple, évidemment, on pense au peuple des Hébreux pieds nus dans le sable du désert. Mais au fond, je crois que le peuple, c'est aussi, pour mon père, pas forcément le peuple de mon père, mais le peuple pour mon père, ce que c'était pour lui, c'était par exemple la Commune de Paris, c'était la guerre dans les vues par Céline, le peuple de soldats, le peuple des communards, le peuple de Paris, le peuple qui surgit dans certains romans, et ça c'était toujours quelque chose pour lui d'extraordinaire, et il revenait toujours là-dessus, sur la description des foules de soldats, des foule d'insurgés, que ce soit dans Les Misérables ou ailleurs. Donc ce peuple, il s'est beaucoup déplacé. Il y a celui qui est dans le désert, auquel on repense, mais au fond, mon père n'était pas dans le désert, il était à Paris, très parisien, et au fond, très relié à un peuple de Paris. Je dis ça, c'est contradictoire, je complique un peu les choses peut-être.
Non, c'est pas contradictoire, c'est polysémique, mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un titre à la Pagnole. Mon Pagnole a écrit de très beaux livres, puisque précisément, c'est immédiatement la suggestion d'un monde. C'est-à-dire que ce père, c'est un individu, mais en parlant du peuple de mon père, vous dites qu'il est porteur d'un monde ou de plusieurs mondes, puisque vous faites jouer, comme vous venez de le dire, plusieurs sens possibles du mot peuple. Évidemment, on pense au peuple juif, puisque oui, être juif, c'est se sentir partie prenante d'un peuple, concerné par ce qui arrive aux autres juifs, responsable de ce qu'ils font. Mais évidemment, il n'y a pas que cela. Et nous explorons peu à peu la richesse de ce terme. Mais voilà, c'est pas tout à fait un titre pagnolesque.
Il y a effectivement 2 sens. Le juif responsable d'un peuple. Moi, je dirais plutôt le juif en perpétuel apprentissage de ce que c'est qu'un peuple. C'est-à-dire que quand on relit la Bible, on a un Dieu assez pédagogue. Enfin, pas toujours d'ailleurs. Très bon pédagogue, pas toujours patient et n'expliquant pas forcément très clairement ce qu'il veut, où il veut en venir. Mais là où il veut en venir, c'est vers un peuple. Mmh. Alors, est-ce que le juif a compris ce que c'était qu'un peuple et particulièrement habilité pour expliquer de quoi il s'agit, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est dans l'apprentissage de ça. Ça, certainement. Ça, je crois qu'il y a quelque chose là. Mais c'est aussi autre chose pour moi, le peuple. Quand vous me dites c'est un monde, je pense tout de suite à quelque chose que mon père aimait beaucoup, qui était les cours de littérature que Nabokov a donné, qui sont publiés sous je ne sais plus quel titre, mais où en gros, où il a parlé de Jane Austen, il a fait des cours sur différents auteurs, des cours merveilleux, où il dit, Nabokov, que chaque auteur doit, en quelque sorte, dans un roman, instituer un monde qui tient, un monde cohérent, un monde avec... pas forcément toute une cosmogonie, mais enfin quand même quelque chose qui tient. Ça, je crois qu'il était assez sensible au monde de chaque livre, de chaque roman, à ce qui se passe dans ce monde-là qu'un auteur, qu'un écrivain a pu inventer, faire tenir, grâce à sa force de créative. Ça, il était sensible à ça. Donc c'est ça aussi le peuple.
C'est ça aussi le peuple. Oui. Et Kolomchnek.
Je voudrais revenir sur un mot d'Yael. Tu dis apprentissage en parlant de Pierre. Et c'est très important. L'apprentissage, c'est-à-dire qu'on est dans un monde, en tout cas, il est une personne qui est dans l'apprentissage permanent. Il n'y a pas de certitude. Et Yael, dans ton livre, tu as une expression très belle. Tu parles de lui. Alors, je te cite de mémoire et je pense que je modifie la citation, mais d'une vigilance mouvante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude sur ce qu'on sait, sur ce qu'on est, et d'où on vient. On vient d'un pays qui s'appelle la Bessarabie, qui n'existe plus, dont les frontières n'existent plus, dont la langue n'existe plus. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de... Et je dirais peut-être que la seule place qu'on peut avoir, que Pierre avait, qu'il nous a transmis, elle est dans la littérature, elle est dans les livres, elle est dans les romans. Là, il y a une certitude, là, il y a une place qu'on peut définir, dans laquelle on peut s'asseoir. Et quand tu parles du peuple de mon père et tu parles, je ne sais pas si tu citais Peggy ou Victor Hugo, enfin, tout à l'heure, c'était là que... Le peuple de mon père est là, effectivement, dans cette littérature, puisque nos origines sont effectivement mouvantes. Il y a cette idée de vigilance, où il faut tout le temps modifier son regard, tout le temps être prêt à cette acuité qui vous oblige à être en permanence prêt à changer et à modifier et à être en apprentissage, comme disait Yael tout à l'heure.
Alors, cette incertitude, me semble-t-il, tient aussi à son histoire. Il préface un recueil d'essais sur la conscience et l'histoire par un texte où il dit que sa réflexion tient pour une grande part aux années de l'occupation de 1940 à 1944. Il était enfant, mais il a pris conscience rétrospectivement de ce qui lui était arrivé après la libération. Et puis, il parle aussi des années 30, de sa passion fiévreuse touchant au monde qui avait précédé sa naissance, un monde tout à fait ébranlé parce que c'était le monde de l'intrusion brutale de la violence politique au cœur de la vie intime. Et ça, je crois que c'est très important parce que on ne peut encore avoir tendance à considérer l'histoire comme une épopée convulsive et glorieuse où s'accomplit la liberté, mais pour les parents de Pachet et puis pour lui aussi, l'histoire c'était bien plutôt ce qui vous tombe dessus. Tout d'un coup, voilà, ça arrive et l'histoire abat les abris que la vie privée pouvait constituer pour chaque destin particulier. D'où d'ailleurs, me semble-t-il aussi, la prédilection de Pachet pour les auteurs de russes ou d'Europe centrale et orientale, parce que c'est un peu la même expérience de l'histoire qu'ils ont eue, qu'il s'agisse de Roudnitsky, de Miloš ou de tant d'autres. Voilà, l'histoire, il ne la faisait pas. C'était, si vous voulez, c'est pas l'histoire avec un grand H ou Madame H de Régis Debray, mais c'était bien plutôt, pour citer Georges Perec que vous mentionnez également dans votre livre Yael Pachet, l'histoire avec une grande H. Et je crois toute son inquiétude et toute son incertitude sont nées de cette expérience originelle. Yael Pachet.
Je ferais simplement, je vais peut-être faire un peu de psychologie de comptoir, mais je crois que j'ai le sentiment que son rapport à l'histoire ne peut pas se détacher de l'expérience qui est difficile à décrire, de celle d'un enfant pendant la guerre, qui ne sait pas forcément d'ailleurs que c'est la guerre. Bon, alors, il ne sait pas qu'il est juif pendant la guerre, mais c'est une chose. Mais il y a des bombardements, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pour un enfant, tout ça est très obscur. Donc, l'éclaircissement de les lectures qui viennent après pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé avant la guerre, pendant les années 30, etc., ne se détache jamais de la conscience si presque endormie de l'enfant. Et pour comprendre ça, je l'ai compris cet été en allant voir à Vilnius une cousine de notre grand-mère, à Colombe et à moi. Elle me raconte comment elle a vécu la guerre, donc elle était enfant. Et elle me dit qu'à un moment donné, elle était avec sa maman dans un train et que le train a été bombardé. C'est-à-dire la moitié du train a été bombardé et qu'elle dormait et qu'elle ne s'est aperçue de rien. Il me semble que c'est ça. C'est une origine de sa conscience. C'est le sommeil de l'enfant. C'est l'inconscience de l'enfant qui ne disparaît jamais. Et à partir de laquelle on va commencer à étudier ce que c'est que l'histoire.
Oui, je me souviens que je l'interrogeais sur la guerre, il me disait « mais je ne savais rien ». J'étais un petit enfant, je ne savais rien. On ne me parlait pas, on ne me racontait pas. La peur, à un moment, il a été caché dans un couvent, mais il pleurait tellement que sa mère, notre grand-mère, est allée le récupérer et très vite. Il est resté quelques jours, alors que ma mère et donc ta tante, elle est restée plusieurs mois. La seule chose que j'ai compris, c'est après la guerre, j'étais toujours collée à ma mère, à notre grand-mère, et un jour, ma mère va voir une amie et je vais absolument l'accompagner parce que je veux être collée à ma mère. Et elle me dit « Non, tu ne peux pas venir parce que cette amie a perdu un enfant qui a été déporté et je ne veux pas qu'elle te voie. » Et là, il a 8 ans, et il comprend qu'il s'est passé quelque chose, que des enfants sont morts. Mais il n'en sait pas plus que ça. Donc, son inconscience de ce qui s'est passé se transforme en une inquiétude, une peur de la catastrophe, comme il nous rappelait souvent, très présente.
Oui, alors, toujours dans cette introduction de Hozaguet, il dit, donc c'est 44-45, au moment où j'étais invité à vivre normalement, à ouvrir et épanouir ma conscience, je découvrais la terreur passée, cette terreur, assourdie parce que jamais explicite, et pour cela même impossible à calmer, il me semble qu'elle ne m'a jamais quitté depuis. Mais il a tenté d'élucider cette terreur, et là j'en viens peut-être à un sens possible du mot peuple. Il a voulu comprendre, il s'est pris aussi, comme il l'écrit, d'une passion fiévreuse touchant au monde qui avait précédé ma naissance, et à ce moment-là il s'est mis à lire, il le dit. Il a lu Le jardin des Finzi Contini de Giorgio Bassani, les livres de Robert Conquest sur la grande terreur en URSS, les archives de Smolensk, éditées par Merle Feinsod, Adolf Runitsky, Les lunettes d'or, un récit de Yang sur la révolution culturelle en Chine, et il me semble que le peuple de Pachet, ce sont aussi les livres. Et d'ailleurs, vous dites quelque chose de très juste dans votre livre, Yael Pachet, puisque vous écrivez ceci. À 16 ans, mon père était un taiseux. Son père exigeait de lui qu'il respecte les traditions juives, mais lui préférait rêver devant les couvertures de la collection Essai chez Gallimard que de plonger dans la lecture de livres écrits à l'envers. Il récupérait en douce les ordonnances et les agendas médicaux de son père, qui était dentiste, et il le recouvrait de phrases. Écrire et penser, c'est la même chose, se disait-il exalté. Il voulait être écrivain, il voulait penser. Il n'y a pas d'études précises pour devenir écrivain, mais faire des études était une obligation morale quasi religieuse. L'étude des livres est pour un juif pieux une forme de dévotion. Donc, passer du livre et de ses commentaires au livre au pluriel, c'était pas une trahison, c'était peut-être aussi sa manière d'être juif.
Oui, c'est vrai qu'en relisant Hozaguet, on se dit, mais alors pourquoi il n'est pas devenu historien, tout simplement, puisque l'histoire l'intéresse. J'ai pas de réponse. Hein. Je posais la question, vous attendez la réponse, mais je ne l'ai pas.
Mais peut-être qu'il y a dans les romans, dans la littérature aussi, un abord irremplaçable de l'histoire. C'est peut-être une réponse possible, parce que si on veut réfléchir à l'histoire du XXe siècle, du terrible XXe siècle, ben les noms qui surviennent, c'est Vassili Grossman, par exemple, Solzhenitsyn, enfin, et Primo Levi. Vous voyez, donc les écrivains sont quand même dépositaires aussi de l'histoire.
Oui, tout à fait. Je n'attaque pas la littérature. J'aime bien attaquer la littérature aussi dans son manque de sérieux. Je l'aime et j'ai envie de m'en moquer aussi. Ouais. Il y a quelque chose de sérieux dans l'histoire qui est merveilleux. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les historiens. Je pense qu'il en avait beaucoup, qu'il avait une estime extraordinaire pour les historiens. Ne pas être historien, c'est une pudeur, mais c'est aussi un empêchement, hein, peut-être un empêchement qu'il a eu. Ça n'est pas forcément, on valorise tellement la littérature, qui est capable de transmettre, qui est capable de ceci, qui est capable de cela. Et je suis au fond d'accord. Et en même temps, je crois qu'il a toujours été attentif aussi à autre chose que la littérature, aux historiens, évidemment à la philosophie de la politique avec Claude Lefort, Hannah Arendt et compagnie, mais il a lu de la sociologie, il a lu des choses plus scientifiques, il s'est toujours nourri de ça. Là, je saurais pas dire, j'aurais pas envie de dire que la littérature est donc cette grande solution à tout, quoi.
Mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit que
il se serait moqué, je pense.
Les livres étaient aussi son peuple.
Oui.
Et dans les livres, il y avait les livres d'historiens, puisque j'en ai cité deux, mais aussi une certaine littérature. Et d'ailleurs, je vous cite Kolomschneck dans Les guerres de mon père, une conversation que vous avez avec Pierre Pachet, parce que vous vous interrogez sur la noirceur d'un certain nombre de collabos. Et donc, vous cherchez l'histoire, dont vous restituez les noms. Et voici ce que dit Pierre Pachet. Peu de gens veulent de manière délibérée le mal, ont conscience de détruire. Ils détruisent en pensant faire le bien. C'est d'ailleurs la manière la plus puissante de faire le mal, vouloir faire le bien. Et là, Pachet parle encore. Je ne fais que citer Vassili Grossman. Là où se lève l'aube du bien, les enfants et les vieillards périssent, le sang coule. Même les nazis voulaient construire un monde meilleur. Oui. Donc, il est habité quand même. Par cette littérature.
Oui, bien sûr.
Kolomschneck.
Vie et destin est un livre qu'il m'avait conseillé. Il m'avait conseillé aussi un autre livre quand je m'interrogeais sur la noirceur de l'âme humaine, cette question un peu naïve, pourquoi fait-on le mal ? Et je me souviens de son excitation quand j'étais venue lui poser cette question. Ça l'amusait. Et il m'avait conseillé ce livre d'un historien britannique qui est Christopher Browning sur le 101e régiment où il avait interrogé 210 policiers allemands qui avaient participé à la Shoah par balle, qu'il avait pu interroger après la guerre sur pourquoi ils avaient agi, pourquoi certains, une trentaine, avaient refusé de tirer. Et ceux qui avaient accepté de tirer le disaient c'est parce que je ne voulais pas laisser les autres faire agir seuls. Je devais être solidaire du groupe. Il aurait été lâche de ne pas agir avec le groupe et de fuir. Et ceux qui n'avaient pas tiré, qui avaient refusé de tirer sur des femmes, des enfants, ne se sentaient pas courageux. Ils sentaient en eux une certaine lâcheté. Je me suis enfui, j'avais trop peur. Et la conclusion de Christopher Browning que partageait Pierre, c'était que ceux qui avaient refusé de tirer avaient accepté la solitude, avaient accepté de s'extraire du groupe et d'agir et de penser seul. Et quand je pense à Pierre Fâché, à ton père, c'est quelqu'un qui acceptait de penser seul contre les autres. Et penser seul, c'est accepter d'être exclu, d'être moqué. Je me souviens par exemple de sa lutte dans les années 70 pour les réfusniques contre l'URSS. On se moquait, c'était pas à la mode à l'époque de se battre contre. Et il avait accepté effectivement d'être seul et de penser seul. Et je pense que c'est quelque chose qui est important
l'attitude de Pierre. C'est peut-être le premier article de la morale d'un écrivain et peut-être de tout citoyen à prendre le risque de penser seul. Ce que vous dites de Christopher Browning, des hommes ordinaires, m'évoque aussi l'histoire d'un Allemand, de Sébastien Hafner, où celui-ci fait une analyse phénoménologique absolument géniale de ce qu'il appelle l'encamaradement. Et voilà, et c'était l'encamaradement qui faisait que il fallait faire ce que faire les autres, il fallait pas trahir le groupe. Voilà, et tout d'un coup, ils ont accepté justement de trahir le groupe. Mais Yael Paché, votre livre Le peuple de mon père se termine justement, c'est l'épilogue, et je trouve ça fascinant, par l'évocation de deux figures totalement oubliées aujourd'hui, Youri Fedorov et Alexis Mourienko. Alors, qui était-il ? Première question. Et deuxième question, dans la foulée, pourquoi avez-vous terminé votre livre sur Paché avec l'évocation de ces deux figures, Yael Paché ?
Mourienko est mort maintenant. Fedorov vit encore près de New York. D'abord, c'était leurs deux noms, Fedorov, Mourienko. C'est comme ça que j'en entendais parler à la maison, je le raconte un petit peu, c'est-à-dire ces deux noms russes, mais c'est aussi toute la fascination pour la langue russe qu'avait mon père, et donc les patronymes russes qu'on dit et qu'on répète parce qu'on en parle, et aussi parce qu'on aime dire ces noms-là. Alors c'est ces deux Refuznik...
Refuznik, redéfinissez le mot, alors, parce que malheureusement, tout ça est tombé dans l'oubli.
Oui, il faut se remettre... se remettre dans un contexte soviétique qui va être difficile parce que c'est un monde qui s'est effondré, mais il y avait une force, un mur, pas seulement le mur de Berlin, mais un mur énorme contre lequel on poussait, on grandissait, on s'épanouissait, qu'on voulait traverser. Cette tension énorme de soviétique, elle a été tellement importante, et maintenant elle a tellement disparu qu'on ne sait plus. C'est comme si on avait enlevé un tuteur. Alors est-ce que le rosier va continuer à pousser tout seul?
Mais que refusaient les Refuzniks?
Alors les Refuzniks, on leur refusait un visa pour aller en Israël, tout
voilà,
simplement.
C'est ça
le refus. Le refus, c'était ça. Donc, ils ont fait un certain nombre d'actions et ces deux-là se sont retrouvés dans une action qui consistait à prendre un avion en otage pour aller jusqu'en Suède et puis après en Israël. Bon, et c'était dans un groupe de je sais plus, 10-15 personnes. C'était les deux seuls qui n'étaient pas juifs. Et finalement, tout le monde a été libéré et eux sont restés au goulag. Vraiment,
et ils demandaient un visa pour Israël alors qu'ils n'étaient pas juifs.
Ils voulaient participer. Ils sont allés en Israël. D'ailleurs, en sortant finalement du goulag, je crois que Fedorov ou Mourienko a passé une année en Israël. Il n'est pas resté. Il est allé aux États-Unis. Ils se sont effectivement associés à ce désir de libération qui pour eux devait ressentir comme suffisamment universel. En ce sens, ils ont donné à la judéité son aspect le plus universel, celui qu'on rêve de lui.
Et qu'est-ce que votre père a fait pour eux? Pourquoi était-il si important justement de conclure votre livre?
Parce qu'une fois que les effectivement, alors ce qu'il a fait concrètement, c'est que simplement une fois que tout le monde a été libéré, sauf les deux seuls non-juifs, il a participé à un comité et il est allé rencontrer la femme et la mère de ces deux Refuzniks. Je voulais, j'ai retrouvé, je savais pas ce qu'ils étaient devenus, j'ai fini par les retrouver, retrouver trace d'eux. Il me semblait que...
Enfin, je me souviens que ces noms revenaient tout le temps, qu'ils étaient en combat permanent pour eux. Ils répétaient leurs noms.
Oui,
je me souviens tout le temps, ils répétaient leurs noms, il fallait se battre pour eux, combattre pour eux, leur permettre d'être libérés, de pouvoir partir, face effectivement à ce bloc qui était l'URSS et cette inquiétude qu'on avait, enfin ce monde dans lequel on ne pouvait pas entrer, mais d'où on venait. D'où Pierre venait.
Oui, il clamait pas qu'il le faisait en tant que juif pour sauver deux non-juifs, mais au fond, il y avait aussi ça.
Il y avait aussi cet aspect des choses.
Cet aspect était là.
Alors, vous venez de dire, en tant que juif, et je voudrais évoquer un événement de sa vie, un événement quand même capital, le changement de nom. Parce qu'il s'appelait Apachetsky, c'est ça ? Et là, je citerai ce livre extraordinaire, Autobiographie de mon père, qui est un véritable tour de force. Le père de Pachet, que vous n'avez connu ni l'une ni l'autre, je crois, s'appelait Simcha. Et Pachet écrit sa vie, ou ce qu'il sait de sa vie, à la première personne, comme s'il était son père. Et c'est vraiment inouï. Il s'appelait Simcha, alors que, dites-vous, Yael Pachet, c'était un homme de la réticence, un être exaspéré, ce que vous savez de lui, et Simcha, en hébreu, ça veut dire joie. Mais c'était aussi un homme extraordinairement clairvoyant. Dès les années 20, lit-on dans l'autobiographie de mon père, il se doutait que l'après-guerre était une entre-deux-guerres. Il avait compris les intentions d'Hitler au moment de son arrivée au pouvoir. Il a su ne pas se déclarer comme juif sous l'occupation, parce que il savait que ça menait au pire, alors que beaucoup de juifs disaient que ben voilà, s'ils faisaient preuve de bonne volonté, il ne leur arriverait rien. Et justement, sa lucidité, ou en tout cas son pessimisme, le conduisent à faire de longues démarches qui devaient lui permettre de changer définitivement de nom. Alors voici ce qu'écrit Pachet au nom de Simcha. Si nous restons ici, je n'ai pas le droit d'imposer à mes enfants une existence de citoyen de seconde zone, moqué, désavantagé ou isolé. Je n'entendais pas, bien sûr, les détacher du judaïsme. J'espère au contraire les en rendre assez fiers pour que le problème de leur assimilation ne se pose jamais. J'avais confiance qu'ils sauraient faire accepter, sinon aimer, leur judaïsme à leurs voisins sans en souffrir. Avec le recul du temps, et maintenant que cette substitution de nom est chose faite depuis quelques années déjà, je regrette à moitié cette décision. Mes enfants eux-mêmes l'ont critiquée, peut-être avec trop d'emportement. Ils en profitent pourtant, mais il est vrai qu'elle risquerait d'encourager en eux, si les circonstances les y poussaient, un renoncement fâcheux à ce qui constitue l'originalité essentielle de leur être. Alors, est-ce que votre père, Pierre Pachet, votre oncle, Kolomschneck, donc, est-ce que il se plaignait ouvertement de ce changement de nom ? Comment vivait-il le fait de ne plus s'appeler Apachetsky, mais Pachet ?
Pour répondre à ça, je veux revenir à ce que je disais sur la littérature d'un peu négatif, la littérature qui n'est pas la grande sauveuse. Je crois que mon père est rentré en littérature un petit peu à reculons. Et qu'au fond, il est rentré en littérature par ce livre. Donc, il ne s'est pas précipité dans la littérature. Et progressivement, je le crois, c'est un écrivain, il a une écriture, il a un rythme, il a une phrase particulière. Mais il ne s'est pas précipité vers ça. Il est devenu un écrivain littéraire, en littérature, par ce livre, en prenant la voix de son père, ce qui n'est pas rien comme naissance d'une écriture. Mais au fond, en prenant la voix de quelqu'un qui ne disait pas n'importe quoi, qui était contre la fiction, qui était contre la fiction personnelle, la pensée magique, qui était dans le réel, qui lisait le journal, qui était dans les témoignages, qui était attentif à ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la littérature par la peau de son père, par la peau de quelqu'un qui ne se racontait pas d'histoire. Bon, ça c'était une chose. Mais par ailleurs, pour la question de ce changement de nom, c'est dans le livre de Nicole Lapierre, Changer de nom. Mon père raconte, parce qu'elle l'a interviewé, une chose. Il dit qu'il se sent tellement français et parfois il se sent tellement bien à être français que c'est comme s'il s'endormait. C'est un peu comme les petits enfants dans les trains qu'on bombarde et qui ne se réveillent pas. Et à un moment donné, dans cette espèce de d'assimilation qui ressemble à un sommeil. Il prend conscience peut-être que ça ressemble à un sommeil, puisqu'il a le sentiment que quelqu'un le réveille, le secoue. Et il dit, c'est pas mon père, c'est quelqu'un d'autre, qui me dit, bon, c'est bien d'être devenu français, mais quand même pas à ce point, quoi. Et quelque chose le retient. C'est lui et ça n'est pas lui. C'est un peu le peuple de mon père qui le réveille en lui disant, souviens-toi de quand même un petit peu de quelque chose.
J'aime bien cette idée de Yael, c'est quelqu'un qui ne se raconte pas d'histoire, en parlant de notre grand-père Simcha, mais en parlant aussi de Pierre. Il n'y a pas d'angélisme, on ne va pas embellir les choses. Et je me souviens de la façon dont il se moquait de moi, parce que moi j'ai toujours un peu tendance à rendre les choses plus jolies qu'elles ne le sont en vérité. Et il y a cette exigence permanente de revenir au fait, à ce qui est juste. Et pour revenir à l'autobiographie de mon père, c'est un livre qui me dans lequel je suis tout le temps aux aguets, qui m'aiguille, on peut dire ça. Il y a quelques phrases dans ce livre qui me semblent... Je reviens toujours, et tout ce que j'écris, finalement, est contenu dans quelques phrases du livre d'autobiographie de mon père. Et je voudrais revenir sur, un passage. Tu parlais des noms russes tout à l'heure, Yael, en disant qu'il aimait répéter les noms russes. Il y avait deux noms russes qu'il répétait aussi souvent, que notre grand-mère répétait. C'était Raya et Masha, ses sœurs Raya et Masha. Raya et Masha qui revenaient comme une lituanie, comme dans Les Trois Sœurs de Tchekhov, c'est Raya et Masha. Et il décrit ces femmes qui ont été déportées, qui ont perdu leur enfant. Et Simcha, donc, sous la voix de Pierre Paché, raconte leur visite après la guerre. Et donc, je vais le lire. L'insouciance qui me mettait si mal à l'aise chez les autres, je la supportais très bien chez elles. D'abord parce qu'elles y mettaient une touche discrète de féminité qui semblait dire qu'il ne fallait pas prendre cette insouciance trop au sérieux. Son sourire ne pouvait être si gai que parce qu'elle savait au fond d'elle-même de quoi la vie est faite. Si le pire est possible, la mélancolie n'est pas de mise. Et pour moi, c'est une phrase essentielle de ce qu'est Pierre Paché, mais aussi l'histoire de notre famille, de ce peuple qui a disparu, de ce pays qui n'existe plus, de la catastrophe qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Quand je l'interrogeais sur Raya et Masha, pourquoi il n'avait pas écrit Raya et Masha?
Mais vous l'avez fait à sa place, d'ailleurs.
Je l'ai fait à sa place avec son autorisation et sous sa vigilance. Il me disait que c'était trop difficile, trop douloureux pour moi. Je pouvais écrire sur les deux réfisniques, je peux écrire sur Yassi, le programme de Yassi, mais il y a Raya et Masha, je ne peux pas.
Mais cette phrase, c'est vrai. Ouais. Si le pire est possible, la mélancolie n'est pas de mise, est très forte. Je ne sais pas si elle vaut pour tous les rescapés, mais elle dit quelque chose sur les rescapés, sur les survivants de la catastrophe. Ça, c'est vrai. Et je comprends qu'elle vous ait fasciné et qu'elle vous habite toujours, Colomb Schneck. Oui.
Elle continue à m'aiguiller. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, Yael, mais
je trouve ça magnifique que mon père, qui râlait, qui était quand même des fois bougon. Très scrogneux, très bougon, finalement a donné à ta légèreté, Colombe, qui est un don, comme on a le don des larmes, on a le don de la légèreté. Il a donné avec cette phrase, avec cette remarque, mais avec son attention, avec l'attention qu'il t'a prêtée, il t'a donné,
c'était une générosité. Une générosité, là, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de vouloir porter sandales dorées, j'ai le droit d'aimer me baigner dans la mer Méditerranée.
Oui, t'as autorisé cette légèreté, alors que lui n'était pas toujours là-dedans, mais il l'a appris.
Il l'a appris à la fin de sa vie, j'ai l'impression qu'il a appris cette légèreté.
Mais c'est paradoxal.
Je voudrais pas faire une émission psychologique, mais quand même, un mot... sur le caractère de Pierre Paché. Parce que sur le site de l'Obs, Colomb Schneck, vous avez publié un texte au lendemain de sa mort qui commence par cette phrase « Je ne vais pas vous faire croire que Pierre était un type doux et agréable. » Et vous dites dans « Les guerres de mon père » qu'il pouvait être brutal et injuste. et que, bien que ces livres soient vos références, il a émis justement sur votre travail parfois des jugements d'une sévérité extrême. Quand je lui avais fait lire, dites-vous, il y a 10 ans, le manuscrit de mon premier livre, une enquête sur l'assassinat de mon grand-père, il m'avait déclaré « Ce n'est rien, ce n'est pas un livre, juste un amas de documents bruts sans réflexion. On ne s'est pas parlé pendant un an. » Vous vous dites que Yael Pachek, que vous n'aviez pas peur de lui, mais en même temps, vous aviez souvent, vous aviez quand même un peu peur de le décevoir. Alors, un mot sur son attitude.
Oui, je me souviens de cet appel et d'avoir pleuré, bien sûr, en raccrochant. Je crois qu'on n'est pas, je pense que Yael, pareil, on est tous dans la famille, on a dû pleurer à un moment face à Pierre. Il y avait une exigence extrême pour nous. Et donc, effectivement, ce premier livre, il avait raison, c'était un amas de documents bruts sans aucune réflexion, mais il n'avait pas tort, ça ne veut pas dire que ce n'était pas un livre. Et je me souviens d'avoir appelé Jean-Marc Roberts, notre éditeur, mon éditeur après, qui m'avait dit « mais je ne suis pas d'accord avec lui ». Et effectivement, j'avais été fâchée et attristée parce que c'était Pierre. C'était Pierre, Pachet, c'était l'adulte de notre famille, puisque mes parents sont morts jeunes. C'était ma référence constante, ces livres m'habitaient. Et tout d'un coup, j'écris mon premier livre, il me dit « ce n'est pas un livre ». Et ça a été comme un fouet. Il fallait que je lui prouve le contraire. Et je me souviens que quelques années, il avait eu cette réflexion qui était. Il avait dit Colombe, à force de travail et sans le faire exprès, parce qu'il ne faut pas non plus être lent, est en train de devenir un écrivain. Mais il y avait cette idée de sans le faire exprès, que j'aime bien d'ailleurs.
Alors, vous dites, bon, Yael Pachek, que vous étiez à l'aise avec votre père, mais vous dites aussi que vous l'avez souvent déçu. Donc, vous reconnaissez en lui une exigence extrême et une très grande franchise.
Oui, mais enfin, pour être exact, je n'ai pas déçu que mon père, j'ai déçu plein de gens dans ma vie. Donc, j'ai beaucoup déçu. Et moi-même, j'ai plutôt mauvais caractère en réalité.
Ah bon?
Ceux qui me connaissent de près savent que j'ai pas forcément un bon caractère. Donc,
que vous avez hérité de Pierre Pachet?
Que j'ai l'impression dont je m'enorgueillis comme une création personnelle.
Ah bon? Non, mais, là, je vais apporter mon propre témoignage. Il est vrai que Pierre Pachet pouvait être ironique et même impitoyable. Qu'on lui soumette un sonnet ou une idée, il était alceste et pas filinte. Ce qui fait d'ailleurs que je me suis tenu un peu éloigné de lui pendant de nombreuses années, alors que je l'invitais dès que je pouvais à réplique, j'avais un peu peur. Alors depuis, il s'est peut-être adouci, et moi je me suis peut-être raffermi, mais une amitié, je crois, est née. Simplement, vous dites, parce que moi, je prends le parti de Philinte, quand même, dans cette grande dispute. Mais vous dites aussi, Colombe Schneck, ça m'a beaucoup fait rire, il vous engueulait si vous disiez à la fin d'une phrase « voilà ». Et là, j'ai pensé à moi, je n'engueule pas les gens quand ils commettent des fautes de français, parce qu'il m'arrive d'en commettre aussi, mais quand ils disent « hyper » et « super », je suis un peu énervé, et il y a un adjectif qui me rend absolument malade, là, c'est mon côté Pierre Pachet, je crois, c'est « sympa ». C'est sympa à tout bout de champ, et je me souviens d'une personne à qui j'avais prêté Retour à Florence de Henry James, et elle m'a dit, ouais, c'était très sympa. Et là, Henry James sympa, ça m'a plongé dans un abîme, et je me suis dit que la déculturation pouvait prendre deux visages. Soit ne pas lire, soit ne pas avoir lu ce qu'on a lu. Parce que, pour trouver Henry James sympa, il faut vraiment ne pas avoir lu ce qu'on a lu. Donc, je comprends bien Pierre Pachet. Et alors, justement, cette citation de Henry James me permet de vous répondre aussi, Yael Pachet, parce que tout le monde se raconte des histoires. Mais pour sortir des histoires qu'on se raconte, on a précisément besoin de la littérature. La littérature n'alimente pas le fantasme, elle le déconstruit, comme on dit aujourd'hui. Donc, voilà, il y a la littérature qu'on se fait, Et il y a la littérature qui vous sort de tout ça et qui élargit votre compréhension du monde, forme, façonne votre attention. Voilà, c'était ma défense de la littérature. Mais Pierre Pachet, c'était pas un homme très simple, mais c'est un homme qui a énormément compté pour vous, malgré tout ça, Golombschneck.
Énormément compté, qui m'a... je pense que l'écrivain que je suis aujourd'hui, enfin, si je peux dire que je suis écrivain, en tout cas, j'ai écrit des livres, je lui dois ce que je suis aujourd'hui par son exigence, par son refus de m'aider, d'une certaine façon. Je me souviens d'aller plusieurs fois chez lui l'interroger en espérant que n'avoir plus à écrire que sous sa dictée. Et il refusait de faire ce rôle-là, mais il m'indiquait... Il me disait, il faut que tu lises ce livre, il faut que tu interroges cette personne. Il est temps pour toi d'écrire ce livre-là, mais sans aide, sans voilà, voilà, sans refusant le voilà.
C'est beau ça, le refus du voilà.
C'était le refus du voilà. Il fallait que, par exemple, quand j'ai écrit La réparation, l'histoire de ses tantes, de Raya et Macha, et de Salomé et Kalman, les petits-enfants, je me souviens là encore que... J'espérais qu'il m'indique ce que j'avais à faire. Il a refusé de me raconter. Il m'a dit « je ne me souviens de rien ». Souvent, il me disait « je ne me souviens pas, je ne sais pas, je ne me souviens pas ». Et puis après, je me rendais compte qu'il savait déjà tout. Mais il fallait que moi, je fasse le travail. Il avait une... Et cette exigence était très, très généreuse. Je me souviens de... Dans mes interrogations, je lui avais demandé s'il avait... Il pensait que notre grand-mère, Guinda, avait gardé des lettres, peut-être après-guerre, de ses sœurs. Hein, une correspondance, puisqu'elle s'écrivait beaucoup en russe et en yiddish. Et il m'avait dit, je ne pense pas, ta grand-mère a jeté tout. Et le lendemain, il m'avait appelé en me disant, j'ai ouvert une valise de ta grand-mère, qui était chez lui depuis plusieurs années, depuis la mort de notre grand-mère, et dans laquelle il y a... une dizaine de lettres en russe de ses sœurs. Je vais te les amener demain. Et il n'avait jamais pu ouvrir cette valise. Et je me souviens de lui dans la cuisine que tu connais, Yael, chez moi, ses lettres, et me traduisant du russe les lettres qui dataient de la sortie des camps de 45, 46, 47 de ses sœurs et notre grand-mère. Et je me souviens de... C'était un trésor. Et je me dis, mais garde-les pour toi. Enfin, c'est toi qui dois écrire sur ces lettres. C'est toi qui dois. Et non, il les a laissées. Et je n'en revenais pas.
C'est un cadeau qu'il vous a fait.
Ouais.
Alors, puisque vous parlez de votre grand-mère, je dois m'arrêter une seconde au livre de Pierre Pachet, Devant ma mère. Un livre bouleversant, devant ma mère qui perd pied, devant ma mère dont les facultés se détériorent. Et il dit à un moment donné qu'elle était égarée, dépourvue de prise sur les phrases qui parvenaient à peine à sortir d'elle. Et je me demandais, écrit Pachet, s'il avait quelque moyen de mesurer encore la différence entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle était en effet devenue. Et face à des malades atteints de cette forme de démence, on se pose la question. Et on peut se dire d'ailleurs que cette lucidité survient parfois, et il y a des moments où elle sentait cela. Mais alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Pachet écrit ce livre devant ma mère, et que dans l'autobiographie de mon père, il décrit de l'intérieur la maladie sans nom de Simra, et qui ne craint pas la mort, mais la bêtise sans recours, et dont le discours intérieur est interrompu par de longues absences. Donc, il est arrivé quelque chose du même ordre à Simra, et il en parle comme si c'était lui-même. Donc, ce double événement, quand même, l'a fortement marqué, et grâce à la littérature, il a su le dire, Yael Pachet.
Oui,
quand c'est vrai que je vais continuer maintenant et défendre ma position et de prendre l'inverse, de faire l'avocat du diable, je ne sais plus quoi, mais oui, il a toujours donné valeur au témoignage. C'est comme Claude Lefort le faisait, c'était le témoignage. Il n'a pas été un philosophe conceptuel, il n'a pas inventé de concept, il n'a pas inventé de système, tout en s'intéressant à la philosophie, ou en tout cas à la philosophie de la politique. Et je pense qu'il a été un amoureux de la littérature. C'est-à-dire que, pour revenir sur son caractère, on va refaire effectivement 5 minutes de psychologie. Il avait effectivement peut-être mauvais caractère, mais je crois que surtout il était émotif. C'est-à-dire qu'il était exaspéré. Donc quand il s'exaspérait de l'usage c'était la même chose. Par exemple, quand il entendait cette chanson d'Aretha Franklin, The Moment I Wake Up, Before I Put On My Makeup, I Say A Little Pray For You. Mmh. Cette chanson-là. Mmh. Il pleurait en l'entendant.
Ouais, il adorait.
Parce que c'est une femme qui se réveille le matin et qui, avant de mettre son maquillage, dit une petite prière à son amoureux. Et donc, cette émotivité qu'il avait l'a guidée et l'égarait aussi, l'a fait écrire et l'a peut-être aussi empêché d'écrire. Je crois qu'il était... Je veux parler des limites de son corps. Enfin, c'est ce rapport à l'émotion qu'il avait. Qui était une difficulté aussi pour lui.
Alors,
une souffrance.
Parlant d'émotion, il y a dans votre livre, Yael Pachet, un moment qui m'a beaucoup ému, une histoire que je connaissais, mais que vous racontez très bien, l'histoire du Baal Shem Tov. Et il me semble qu'elle peut s'appliquer à Pachet et peut-être à beaucoup d'autres. Alors, est-ce que vous pourriez résumer l'histoire du Baal Shem Tov?
Je vais la résumer, mais c'est vrai que quand j'entends Colombe, on pourrait inventer une nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Il y en a d'autres, il y a celles que je raconte, mais il y en a d'autres qui sont d'ailleurs assez hilarantes. Celui à qui on demande conseil. Colombe, tu disais, j'allais voir Pierre Pachet, j'attendais qu'il me dise quoi faire. Donc, il y a une autre histoire du Baal Shem Tov que je vais vous raconter, pas celle du livre, que je trouve très bien, qui est un peu l'histoire de Colombe avec Pierre Pachet. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov va vers la Terre Sainte, il est dans un bateau avec son disciple, et puis il y a des pirates qui arrivent, et donc ils sont vraiment très très embêtés, et le disciple lui dit au Baal Shem Tov, là c'est vraiment le moment de dire tes paroles magiques, les paroles qui sauvent, parce que un saint hassidique est censé connaître des paroles magiques qui sauvent la situation. Et le Baal Shem Tov lui répond, mais je ne me souviens absolument de rien. Est-ce que toi, tu te souviens de ce que j'ai pu dire, des paroles que j'ai pu dire? Et le disciple est tellement paniqué, lui dit, mais moi, je me souviens absolument de rien non plus. La seule chose dont je me souviens, c'est de l'alphabet. Il dit, qu'est-ce que tu attends? Dis l'alphabet. Donc le Baal Shem Tov demande à son disciple de dire l'alphabet. Le disciple interloqué dit les lettres les unes après les autres. Le Baal Shem Tov répète les lettres les unes après les autres. Et puis là, un bateau arrive. Au fond, c'est le prophète Élie qui les sauve, etc. C'est-à-dire que le saint, le tzaddik, comme disent les hassidiques, ne se souvient pas de grand-chose en réalité. Il dit quelque chose qui vous remet, qui vous raffermit l'âme, qui vous remet en place, qui vous redonne le sens du rapport entre les choses, du rapport entre vous et le monde. Mais il n'a pas forcément une sagesse. Ça n'est pas encore un pédagogue.
Mais vous racontez une histoire un tout petit peu différente.
Alors, l'histoire que je raconte, elle est dans un sens postérieur au Baal Shem Tov. Je pense que c'est plusieurs générations après lui. C'est-à-dire le premier tzaddik qui est le Baal Shem Tov, quand ça ne va pas, va dans la forêt, allume un feu, dit des prières et les choses s'arrangent. Puis quelques générations plus tard, c'est le maestrique qui un autre rabbi qui va dans la forêt. Il ne se souvient plus de l'endroit où il faut aller, mais il allume encore le feu. Il connaît les prières et les choses s'arrangent. Et une génération après, il ne sait plus allumer le feu. Il ne sait plus où sont les prières, mais il va encore dans l'endroit dans la forêt. Et puis la dernière génération,
On ne sait plus, il ne sait plus le dernier dessin, il ne sait plus où les ancêtres allaient, ni dans la forêt, ni les prières, ni quoi que ce soit. Mais en racontant l'histoire, les choses s'arrangent. De toute façon, toutes les histoires hassidiques, quand on les raconte, ont une valeur performative. Si on raconte, par exemple, que le Baal Shem Tov, un jour, racontait, en racontant, il se mettait debout, il se mettait à danser, en racontant ça, on guérit soi-même.
Oui, alors mais c'est très très beau. Effectivement, la dernière génération dit ceci, nous ne savons plus allumer le feu, nous ne savons plus dire les prières, nous ne connaissons même plus l'endroit dans la forêt, mais nous savons encore raconter l'histoire.
Oui.
C'est le lien qui demeure, nous savons encore raconter l'histoire.
Et au pire, nous savons encore dire l'alphabet. Donc, je veux dire,
oui, pour revenir à la première,
pour revenir à ma première
récit. Histoire, oui, voilà. Les deux histoires. Voilà. Mais Pierre Pachet, c'était quelqu'un qui savait encore raconter l'histoire, c'est ça que vous diriez?
Oui, raconter l'histoire. En tout cas, nous encourager à raconter l'histoire.
Et c'est ce que vous avez fait, vous.
C'est ce que j'ai fait. Je sais qu'il avait peur à chaque fois que j'écrivais sur notre famille, sur ses tantes. Il me le disait après. Il me disait j'ai très peur. Parce que si le livre est raté. Si le livre est raté.
Et encore pire, s'il est réussi.
Et il y a cette phrase dans l'autobiographie de mon père où il dit comme à chaque fois que mon père, où, là c'est Pierre Pachet qui parle, hein, c'est l'introduction du livre, comme chaque fois que mon père me parlait sérieusement, fût-ce en passant, j'en retirais un fort sentiment de dignité et un formidable encouragement. Je me souviens de partir de chez lui de la rue Chapon avec cet encouragement par son exigence. Il fallait que ça soit bien. Il fallait que j'invente la bonne histoire. Ça me manque aujourd'hui, cette exigence. Bien. Où je la trouve dans ces livres. Mais voilà cette... je voudrais encore citer une autre phrase de Pierre dans l'autobiographie de mon père. Une parole qui s'écrivait, se reprenait, ne parlant à personne, à la recherche d'une certaine façon de s'exprimer, d'une vérité qui lui échappait.
Une vérité qui nous échappait.
Ouais.
Merci beaucoup, Colin Schneck. Merci beaucoup, Yaël Pachet. Alors, je rappelle le titre de vos livres, Le peuple de mon père, Yaël Pachet, est publié chez Fayard, et Colin Schneck, Les guerres de mon père, on le trouve aujourd'hui au livre de poche. Pour ce qui est des ouvrages de Pachet, eh bien, vous les trouverez sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Quel est notre écrivain national ?» Mon invité sera Régis Debray. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Claire Levasseur, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.